Vous écoutez
RMC.
Cher tennis, il est temps de te dire au revoir. C'est par ces mots que Caroline Garcia a annoncé sur les réseaux sociaux la fin de sa carrière dans les prochaines semaines. La Française de 31 ans va donc disputer son dernier Roland-Garros. Une annonce surprise, même si, vous le savez, Caroline Garcia n'est plus que l'ombre d'elle-même depuis de nombreux mois. 130e mondiale aujourd'hui. Son meilleur classement, tout de même 4e joueuse mondiale. C'est fait d'armes. Une demi-finale à l'US Open, quart de finale à Roland, une fantastique victoire au Masters et évidemment la Fed Cup en 2019 avec son capitaine Julien Beneteau. L'annonce de sa retraite, c'est la punchline des GG, rapportée par notre copine Siri.
RMC, la punchline GG.
Après 15 ans à concourir au plus haut niveau et plus de 25 ans à consacrer presque chaque seconde de ma vie à ce sport, je me sens prête à tourner la page et à ouvrir un nouveau chapitre. Mon parcours n'a pas toujours été facile. Le tennis a toujours représenté bien plus que des victoires ou des défaites. C'était l'amour ou la haine, la joie ou la frustration. Et malgré tout, je suis profondément reconnaissante pour tout ce que le tennis m'a donné. Pour la femme forte, passionnée et déterminée qu'il m'a aidée à devenir. Mais aujourd'hui, il est temps de passer à autre chose. Mon corps et mes aspirations personnelles me le demandent.
Ah bah, yonk la pêche, hein, Siri, hein. Yonk, Siri déprimée après cette annonce de Caroline Garcia. À chaque fois, on demande évidemment à Siri de rejouer évidemment la scène. Merci Siri, tu nous as bien plombé l'ambiance. Caroline Garcia va-t-elle laisser une trace dans l'histoire du tennis français? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Petite trace.
Ok, donc c'est un petit oui. Un petit oui. Cédric Emmons.
Non.
C'est non. Julien Beneteau.
Oui.
Fred Weiss.
Non.
On commence avec toi, Julien. Pourquoi oui?
Bah, tu l'as rappelé, son palmarès, numéro 4 mondial, gagner le Masters, une victoire en Fed Cup, c'est pas rien. Dans l'histoire du tennis français, on parle du tennis français.
Bien sûr.
Hommes et femmes confondus, je me suis un petit peu amusé. Elle est dans le top 10. Historique et c'est pour moi la quatrième française derrière Amélie Mauresmo, Marie Pierce et Marion Bartoli. Dans l'histoire, quand on fait 15 ans de carrière et que on finit en étant dans le top 10 hommes et femmes confondus et dans les quatre premières françaises, ben oui, je considère qu'on laisse une trace dans l'histoire du tennis français.
Ok, les noms,
figure,
vous pouvez
on dit figure emblématique ou charismatique, du moins c'est les 1-2 du tennis français féminin ou masculin qui laisse une trace. Si on parle de Amélie Mauresmo, Marie Pierce, elle a une carrière de...
Ouais, si on s'arrête qu'un ou deux, ça veut dire que par exemple Henri Lecomte, il n'a pas laissé une trace
pour... Non, mais il a du charisme. Les aléas de sa carrière, le haut, le bas, fait que elle est passée en dessous des radars, une fin de carrière qui s'en va, une fin de carrière qui s'en va peut-être surtout, pas au super moment, mais,
ouais, mais c'est surtout que
et puis pas reconnu par le grand public, on n'est pas très limité sur le grand public.
Mais on a eu tellement, je veux dire, en 2022, quand elle marchait sur l'eau, on s'est dit ça y est, on la tient notre championne, parce que cette nana, elle avait tout, elle a un super tennis, un physique incroyable, elle est costaud comme tout, et tu as une impression de gâchis. Moi, j'ai eu une impression de gâchis parce qu'elle était au sommet pendant quelques mois en 2022, et derrière, elle est retombée dans ses problèmes, parce que elle a un physique incroyable, un tennis incroyable, mais elle n'a pas eu le mental de la championne. C'est pour ça que je dis qu'elle laissera une petite trace, parce que son palmarès est quand même là.
Et parce qu'elle souffre aussi de la comparaison, parce qu'on en a eu des championnes ces dernières années.
C'est ça qui est plus dur.
Oui, autant chez les garçons, on se réfère tout le temps à Yannick Noah, autant chez les filles, t'as eu Mauresmo qui a été numéro un mondial, t'as eu Marion Bartoli qui a gagné Wimbledon, t'as eu Marie Pierce qui a gagné Roland Garros, et donc pour une fille, une tenniswoman française,
faut gagner un grand
pour chemin. Arriver à vraiment marquer les esprits, il faut gagner.
T'es obligé de te mettre au niveau des autres.
Non, mais c'est là que c'est dur. Le tennis, vraiment, c'est très très dur, parce qu'effectivement, quand tu gagnes un master, tu dis c'est extraordinaire. Sauf que qu'est-ce qui reste dans les têtes de la plupart des gens? C'est les grands chelems. C'est les victoires en grand chelem. Et sa meilleure perf, c'est une demi. Donc forcément, ben, les gens, les communs des mortels. Moi, je comprends ce que tu dis parce qu'effectivement, être à un moment quatrième mondial, c'est juste incroyable. Sauf que sur le grand public, effectivement, c'est le grand chelem qui parle. C'est les parcours.
Elle a eu un meilleur classement ATP, par exemple, que Marion.
Oui, c'est vrai.
Elle était quatrième et Marion, je crois, au mieux, a été septième.
Sauf que on est d'accord que le grand public,
évidemment, beaucoup plus de Marion que.
Mais parce que pour le grand public, le classement, c'est ponctuel, alors qu'une victoire, ça marque les esprits, ça marque le temps, et c'est quelque chose d'incroyable. Et une nouvelle fois, c'est dur, parce que dans ce sport, même quand tu performes, même quand t'es quatrième mondial, même quand tu gagnes un master, eh ben, ça passe.
Ça a été une grande joueuse, c'est parce que je disais tout à l'heure, ça a été une grande joueuse. Mais pour marquer l'esprit, tu as raison, Fred. Il faut gagner des grands chelems. Il faut s'inscrire dans la durée, mentalement, physiquement, des hauts, des bas. Il va lui manquer ce petit truc, cet espoir qu'on a cru voir et qui est malheureusement jamais arrivé.
Alors cette sensation de gâchis, toi qui la connais bien, Julien, est-ce que tu as la même sensation aussi que quelque part, il y a eu des choses formidables et puis il y a du gâchis qui fait que ça, bah, il reste à la porte, tu vois?
Je dirais pas du gâchis, il y a une ambivalence avec Caroline parce que elle avait un style de jeu très agressif, très risqué, où de temps en temps on se disait... s'il y a un peu de nuance, et elle a les armes techniques, tennistiques et les armes physiques. Ça peut donner quelque chose d'incroyable. Et en même temps, elle est arrivée avec ce format-là, enfin, avec ce système de pensée, cette éducation, etc. Elle est arrivée quatrième mondiale, elle a gagné le Masters, donc c'est hyper compliqué. Est-ce que, en jouant autrement, elle aurait été plus haut? C'est compliqué d'aller plus haut que ce qu'elle a fait. Donc, je dirais pas gâchis. Le seul truc,
pour en 2022, elle avait un grand chelem dans les pattes, non? L'US Open, elle aurait
bien. En fait, c'est comment elle a pas réussi à capitaliser après la victoire en Masters en fin d'année en novembre 2022. Comment après le début d'année 2023, je pense qu'elle s'est mis beaucoup de pression, qu'elle n'arrive pas à relativiser. Quand elle disait, c'était soit la haine, soit l'amour, soit la frustration ou la... Et elle le disait, elle l'a très bien dit dans une des interviews qu'elle a fait il y a ces quelques mois. Elle avait l'impression que sa vie de femme était définie par ses résultats tennistiques. Et qu'aujourd'hui, elle aspire à autre chose. Elle aspire à avoir une autre vision, une autre connaissance. Elle va se marier cet été. Elle est vraiment dans un autre. Et c'est dommage qu'elle ait pas réussi. Moi, plein de fois, je lui ai dit, au cours de mon capitanat, elle ne s'octroyait pas du bon temps. Elle ne s'octroyait pas de pouvoir profiter de tout ce qu'elle a fait. Parce que tout simplement, elle n'a pas été éduquée comme ça. Et donc, c'est difficile au fur et à mesure. Je me souviens d'une anecdote. Au mois de février, on venait de faire l'Open d'Australie. Il y avait les fameux tournois au Moyen-Orient, à Abu Dhabi, Dubaï. Et elle me dit, je sais pas si j'ai envie d'y aller. On était au CNE à Paris et j'étais passé la voir à l'entraînement. J'ai pas envie, au fond d'elle, elle avait pas envie d'y aller. Et je lui ai dit, mais n'y va pas. Vas-y. Et elle se sentait obligée d'y aller parce que le circuit faisait que c'était des Masters 1000, il fallait y aller, il fallait préparer la tournée américaine derrière, etc. Je dis, mais qu'est-ce que ça va changer à ta vie et à ta carrière si t'y vas ou si t'y vas pas? Vas-y, prends du temps. Va avec ton futur mari là-bas, mais n'y va pas. Pars en vacances, prends du bon temps, réentraîne-toi et tu seras prête pour Indian Wells. C'est pas grave. Et voilà. Et
c'est quoi, ce côté jusqu'au boutiste qu'il a un peu perdu?
Ouais, enfin, perdu, non, mais
l'impression que le tennis, pour elle, c'était une souffrance.
Après, oui.
Après, c'est difficile, hein, quand tu fais les choses par obligation, parce que si tu te dis mentalement, j'y vais pas, on va penser ça, ou je vais manquer ça. Et si j'y vais, mais à reculons, parce que j'y vais sans plaisir, elle a déclaré qu'elle avait perdu le plaisir du jeu, qu'elle était usée mentalement. Et c'est dur, cet équilibre entre ce que je dois faire. J'y vais pas. Si j'y vais pas, il y a telle et telle conséquence. Mais si j'y vais, je suis pas convaincu d'y aller. D'être entre deux.
Mais c'est une torture psychologique. C'est une torture.
Il y en a plein d'amis sportifs qui sont dans ce modèle de pensée.
On boit la tête, hein,
mais de se dire, parce qu'on veut être compétitif, mais de se dire, si je fais ça, si je m'octroie ça, je vais pas être compétitif. Et c'est des modes de pensée qui enferment. C'est très dur. Un de ses derniers matchs, pas cette année, mais l'année dernière, il y a 2 ans, elle était déjà un peu dans cette zone-là. Et c'est là où son fiancé, son futur mari, l'aide beaucoup. Elle était, avant un match en grand chelem, elle était pas bien. Elle jouait le soir. Et à 16h ou 17h, son compagnon lui dit, ils étaient dans la chambre d'hôtel, elle était vraiment pas bien apparemment, il lui dit, viens, on va se promener, on va se changer les idées, tu vas pas penser à ton match et on va aller manger une glace. Ça lui a fait du bien. Elle a gagné le soir, elle a fait un match exceptionnel, mais pas parce qu'elle avait mangé la glace, parce que il y avait quelqu'un de son entourage qui lui a dit, écoute,
parce qu'elle a déconnecté aussi un petit peu. Elle a fait du bien de déconnecter, de dormir tout le temps, et de la tête dans le bidon, c'est abouti.
Je pense que si, de manger une glace, ou quand t'es dans ce mode de pensée, c'est-à-dire que tu t'alimentes, tu réfléchis, ouais, tu dors. T'es dans ce truc. Moi, j'avais ce même rapport avec la nourriture.
Ouais.
On me disait, t'as des 2-3 kilos en trop, donc je me serrais. Sauf que derrière, j'avais zéro plaisir.
Et zéro plaisir.
J'avais rien. Je me rappelle la préparation Coupe du Monde 2011. Je suis arrivé, je faisais partie, j'étais un ou deux, on était 2-3 quarts à faire à 6h30 du vélo parce qu'il fallait qu'on soit fit, il fallait qu'on perde des kilos. Sauf que j'étais pas heureux. Je leur ai dit, mais moi, c'est pas mon modèle de pensée. Le plaisir de la table va m'amener de la joie, va m'amener de la libération. Et le fait de manger cette glace-là a fait qu'elle s'est dit, mais en fin de compte, il y a du plaisir ailleurs. Et j'arrive pour les bonnes raisons sur le coup. Je viens pour prendre du plaisir.
Dans tous les compartiments qui font la performance, tu prends la technique, la tactique, le physique, le mental et plein d'autres choses. Elle, si elle faisait pas les choses, mais quand je dis elle, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Si elle se dit, si elle fait pas les choses, ou elle dit, tiens, je dois avoir 18 sur 20 dans tous les compartiments, elle pense
qu'elle n'est pas prête.
Exactement. Et donc, du mal à avoir confiance en elle, etc. Et encore, c'est pas que Caroline isolée. Il y en a beaucoup. Et donc, de temps en temps, ce que dit Cédric, c'est hyper important. À partir du moment où tu fais les choses primordiales, hyper bien.
Oui, mais il faut se connaître. Oui, sur le terrain, il faut très bien se connaître pour pouvoir se lâcher
mais
un
Julien,
peu.
Julien, toi qui la connais si bien, alors évidemment, t'as pas été son coach, mais t'as été son capitaine. Alors tu la voyais pas tout au long de l'année. Mais est-ce que ce genre de discussion, t'arrivais à lui imprimer ou non, en fait, elle était mentalisée comme ça.
À imprimer, je sais pas. De temps en temps, moi, je voyais pas une souffrance, mais un mal-être de temps en temps et j'essayais justement de surtout sur la fin. Enfin, je veux dire quand t'es une petite fille de 8-10 ans et que tu vas sur les cours à Lyon, elle est lyonnaise d'origine et que on te dit que à 29-30 ans, 4e mondial, t'as gagné la Fed Cup et t'as fait une demi grand chelem, tu signes quand t'as 8-9-10 ans sur le truc. Donc d'essayer de relativiser, de dire regarde, de savourer, de profiter.
Là, tu penses qu'elle est contente de sa carrière?
J'espère pour elle.
Mais c'est dur pour ces athlètes-là. Hein.
J'espère vraiment pour elle.
Parce qu'elle
le mérite. Et j'espère justement que elle va jouer quelques tournois, je sais pas combien cette année, mais j'espère qu'elle va pouvoir les jouer. Justement, là, il n'y a plus de système de...
Libéré.
Oui, exactement. Ouais, ouais. De points, de classement. Il faut que je fasse ci, de calendrier pour l'année prochaine. Non. Allez. Il me reste 4-5 tournois, un dernier Roland-Garros. Vas-y, profite.
Ces athlètes, ils voient toujours le verre à moitié vide. Même à 18 ouais, partout. C'est bon. Dans le rugby, on parle de super pouvoir. On a des joueurs qui ont, par exemple, le jeu au sol, gratté, peu importe. C'est son super pouvoir. Capitalise là-dessus. Et même si t'as 12, 13 de moyenne à côté, mais essaye de construire ta carrière autour de de ce super pouvoir. On parle de points d'amélioration, tu vois. On parle plus de points de faiblesse. Mais dans d'autres sports, quand je dis le rugby, c'est pareil. Pour avoir vécu, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, ça me torturait de dire, faut que je pèse, c'était devenu dingue. Si je le faisais pas, j'avais l'impression de trahir, et deux, de pas être prêt pour arriver à enchaîner les séquences d'entraînement, les matchs. Sauf qu'un jour, quelqu'un m'a débloqué, il m'a dit, ouais, mais t'as le droit aussi de prendre du plaisir, quoi. Le plaisir, c'est d'être là. Le plaisir, c'est ailleurs que la nourriture. C'est ailleurs que de te priver. Eh ben, ce verrou, il a sauté. Mais sinon, je pense que j'aurais pas fait la moitié de ma carrière parce que j'étais vraiment bloqué sur ça. Et je pense que quand on en arrive là, on n'est jamais satisfait. On prend pas de plaisir. On n'y va pas par contrainte, mais on y va en se disant attention, je peux échouer, je peux. Et la dimension mentale. Et Fred disait tout à l'heure, faut avoir un sacré recul pour pouvoir le faire, parce que tu t'enfermes totalement.
Dernière question, Julien, toi qui l'as vu encore il y a quelques semaines, j'imagine, pour lui annoncer que t'allais plus être le capitaine de cette équipe de France féminine. Est-ce que tu savais, est-ce que tu imaginais qu'elle arrête à 31 ans là?
Je pensais pas il y a quelques semaines. Je pensais fin de saison dernière et début d'année. Je pensais au fond de moi que 2025 serait sa dernière saison. parce qu'elle envoyait des signaux et que on sentait une certaine justement fatigue à tous les niveaux de devoir gérer et dealer avec ça. Et je trouve que c'est bien qu'elle l'ait annoncé là avant Roland Garros pour que le grand public sache que c'est son dernier Roland Garros en tout cas.
Et qu'elle soit donc fêtée à Roland Garros par le
public. Ouais, bien sûr. Ouais.
Ok, bon, c'était très intéressant de parler de Caroline Garcia. Évidemment, on lui souhaite beaucoup de belles choses pour son après-carrière, mais là, ça joue encore. Et donc, pour ce Roland-Garros, ce sera face à l'américaine Bernarda Pera pour son premier tour.